Allô, merci. Nous nous retrouvons ici à Kinshasa plutôt pour commencer cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. D'un moment à l'autre, nous allons rejoindre bien entendu le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, en direct de Goma, avec comme invité, je vois d'un moment à l'autre, David Gressler, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en RDC, le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, Monsieur Jean Bayou, et puis bien sûr le porte-parole militaire par intérim qui vont commencer donc d'un moment à l'autre cette conférence de presse en direct de Goma, de Bounia et de Kinshasa. Ici à Kinshasa, nous avons José Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui, comme chaque mois, va nous faire un point sur la situation des droits de l'homme ici en RDC. Nous avons bien sûr l'équipe pays qui est représentée et par Florence Marchal qui va prendre la parole. Voilà un peu pour le point de la situation. Tout de suite, direction Goma, Félix Prosper Bass pour le début de cette conférence de presse. Bonjour, c'est à vous.
Bonjour Charles. À partir de Goma, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Au sommaire de cette rencontre, nous vous parlerons aujourd'hui des activités de la MONUSCO, des activités de l'équipe pays avec notre collègue Florence Marchal, chargée de communication et coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies, représentant les piliers développement et humanitaire. Les autres collègues des Nations Unies sont dans la salle et pourront répondre à vos éventuelles questions. Nous avons aujourd'hui comme invité M. David Gressler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'Est, et nous aurons aussi le général Jean Bayou, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, et M. José María Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous présentera les principales tendances des violations des droits de l'homme pour le mois de mai 2015. Mais aussi, nous aurons le commandant Jean-Marie Joseph Consalves, adjoint au chef de l'information publique militaire et porte-parole militaire par intérim, qui nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire. Nous commençons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO pour ce qui concerne les droits de l'homme. Dans le cadre de son mandat tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais et procède à l'analyse des tendances relatives à cette situation dans ce pays. Ces informations qui sont régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles puissent prendre les actions nécessaires en vue de traduire en justice les auteurs de ces violations des droits de l'homme documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et sont présentées de manière mensuelle à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Pour ce qui concerne l'unité VIH-SIDA, l'unité VIH-SIDA de la MONUSCO a mené une campagne de sensibilisation les 4, 7, 10 et 15 juin 2015 sur la prévention et le dépistage du VIH-SIDA dans la prison centrale de Goma, située au quartier Muzenze. Une occasion pour l'unité VIH-SIDA de sensibiliser les prisonniers compte tenu du nombre croissant de cas rapportés dans les prisons. Elle a donc mis en place une stratégie de prévention pour réduire le taux de prévalence dans les prisons de la RDC. Activité de la police MONUSCO. Le vendredi 12 mai 2015, Madame Aissetou Sanogo, chef du bureau de la MONUSCO Kisangani, a co-présidé avec le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le gouverneur de province, à la remise officielle des salles de garde à vue du groupe mobile d'intervention GMI Ouest de la police nationale congolaise à Kisangani. Fruit d'un projet à impact rapide initié par la police MONUSCO dans le cadre du renforcement des capacités logistiques de la PNC, et dans le souci de renforcer le respect des droits humains, ces travaux de réhabilitation ont démarré le 29 janvier et ont pris fin le 19 avril 2015. Les autorités congolaises ont remercié et félicité la MONUSCO pour la réalisation de cet édifice et la chef de bureau a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage. Maintenant, nous passons le micro à Florence Marchal qui, à partir de Kinshasa, nous fera le point sur les informations de l'équipe pays. À vous le micro, Florence.
Merci, Félix. Bonjour à tous. La première information développée aujourd'hui concerne l'UNICEF. La journée de l'enfant africain qui a été célébrée hier s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations menées par des enfants pour le respect de leurs droits, avec cette année un focus sur la prévention du mariage des enfants. Il est vrai que les taux de mariage des enfants sont élevés en Afrique subsaharienne, 39% des jeunes filles avant l'âge de 18 ans et 13% ayant moins de 15 ans. À Kinshasa, les enfants ont d'abord sensibilisé les médias, donc vous, en organisant une conférence de presse vendredi dernier. Et jusqu'à la fin du mois, ils vont effectuer une tournée de plaidoyer pour accélérer les efforts afin de limiter les mariages des enfants dans le pays. Ils rencontreront ainsi des bourgmestres de la province, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que des représentants du gouvernement, du Parlement national et du Conseil supérieur de la magistrature. Leur tournée les conduira également dans une dizaine d'écoles de la capitale. Un court-métrage produit par les enfants congolais ayant pris part à un sommet mondial sur la question l'an dernier à Londres, deux chansons présentées en version audio et vidéo et des brochures accompagneront ces séances de plaidoyer. Lancement ce mercredi 17 juin à Goma de la campagne « Connais tes droits » pour la lutte contre la discrimination et la stigmatisation liée au VIH, les violences sexuelles basées sur le genre et en faveur du dépistage volontaire de masse. Organisé par le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, en collaboration avec la MONUSCO, ONU-SIDA, l'OIM et le PNUD, cette campagne a pour objectif de contribuer à la réduction de nouvelles infections liées au VIH. Une caravane motorisée fera le tour de l'agglomération avec des artistes comédiens populaires de Goma pour inciter la population à adhérer à la campagne. Il est ainsi attendu que pendant 8 jours, 10 000 personnes puissent se faire dépister volontairement et en toute confidentialité. À noter que les personnes qui seront dépistées séropositives seront conduites vers les structures appropriées de prise en charge. Les autorités politiques, administratives et sanitaires ainsi que les leaders religieux de la ville de Goma sont impliqués dans l'organisation de cette campagne qui inaugure une série d'autres actions sur toute l'étendue de la RDC. Hier, la chambre de première instance numéro 6 de la Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé les dates d'ouverture du procès à l'encontre de Bosco Ntaganda pour les 7 et 8 juillet 2015 avec une possible extension jusqu'au 9 juillet. Conformément à la décision de la présidence de la CPI, intervenue la veille, les déclarations d'ouverture auront lieu au siège de la Cour à La Haye aux Pays-Bas et non comme initialement prévu à Bounia en Ituri. Cette dernière décision fait suite à l'examen d'un certain nombre de facteurs, notamment sécuritaires, logistiques et financiers. Pour rappel, Bosco Ntaganda, ancien chef d'état-major général adjoint présumé des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en 2002 et 2003 en Ituri. Il est actuellement détenu par la Cour. Plusieurs activités seront organisées dans les prochains jours à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée ce samedi 20 juin. Demain matin, une conférence sur la protection des réfugiés et déplacés internes en RDC aura lieu à la salle Fatima à la Gombe à Kinshasa. Public cible, les agents et cadres de la DGM. Demain soir, un débat se tiendra à l'Halle de la Gombe avec la participation de représentants du HCR et d'OTCHA. La cérémonie officielle, au cours de laquelle des réfugiés livreront leur témoignage, est quant à elle prévue vendredi matin à Congo Loisir, toujours à Kinshasa. Des manifestations similaires sont prévues à Bomzabungu et Kimaza. Voilà.
Ces informations sur le volet économie et humanitaire. Maintenant, nous revenons ici à Goma pour prendre le commandant Jean-Marie Joseph Consalves, porte-parole militaire par intérim, qui nous fera l'économie de la situation militaire. Commandant, à vous.
Merci, Félix. L'environnement sécuritaire dans les provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo est demeuré stable durant la semaine écoulée. En province orientale, des efforts significatifs sont fournis par les troupes onusiennes et congolaises dans le but de mettre un terme à l'activisme récurrent des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA au cœur de nouvelles actions dans les localités situées dans les districts du Haut et Bawili. Les unités de FARDC déployées dans cette province se poursuivent avec le soutien des casques bleus de la force de la MONUSCO, la traque de ces rebelles de la LRA dans le but de mettre fin à leurs actions contre les populations civiles. À cet effet, Deux éléments présumés appartenus à la LRA ont été capturés par les unités d'intervention rapide FARDC du régiment de Bouta, en Ituri. La situation sécuritaire a été caractérisée par la poursuite des opérations menées par FARDC et soutenues par la MONUSCO contre les miliciens réfractaires du Front de résistance pacifique de l'Ituri, FRPI, dans les localités situées au sud du territoire d'Ilorumu. En dépit de la pression militaire exercée par les forces coalisées MONUSCO-FARDC, sur les éléments réfractaires du FRPI, ces derniers continuent d'attaquer les civils ainsi que la force de défense et de sécurité congolaise. Le 10 juin 2015, un enseignant ayant résisté au pillage de son argent par des éléments du FRPI a été assassiné par ces derniers au village d'Itono, situé à 20 km au sud-est de Kagaba. Le 11 juin 2015, les troupes des FRDC, soutenues par les cartes bleues de la force de la MONUSCO, ont mené des opérations de bouclage et de ratissage au village de Maga, situé à 8 km au sud-ouest de Kabona, dans le but d'y déloger des miliciens réfractaires du FRPI. Aux ordres du chef rebelle Kakado, qui harcelait les populations locales par la collecte illégale des rations alimentaires, ils ont été repoussés vers la jungle située dans la région de Soudoubouka. La spontanéité de la coopération militaire entre la force de la MONUSCO et l'armée congolaise dans la lutte contre les miliciens du FRPI en termes de planification et de conduite des opérations a produit à ce jour des résultats positifs au regard de la neutralisation de ce groupe armé et de la protection efficiente des populations civiles. À ce jour, le bilan confirmé des opérations fait état de 34 éléments du FRPI tués, 46 blessés, dont 8 présentement soignés à l'hôpital de niveau 2 de la MONUSCO à Bounia, et 22 éditions. Selon des sources de l'armée congolaise, 4 militaires des FARDC ont péri au cours de ces opérations. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire a été marqué dans le territoire de Béni par la reprise des attaques menées par les éléments de l'Alliance des forces démocratiques, ADF, contre les positions de l'armée congolaise et les populations civiles. Ils ont attaqué et incendié le poste de contrôle des FARDC situé à Kazana, dans la région de Lenzo, Sizene, 6 km au sud d'Irigeti, et tué 2 soldats, un agent de la police nationale congolaise et 7 civils blessés et 6 militaires. Les troupes de l'armée congolaise ont riposté, poursuivi l'ennemi dans la région dite Patin et tué 2 affaires. Au chapitre de la reddition dans la province du 10 juillet 2015 à ce jour, 14 éléments en provenance des groupes d'armée se sont rendus au troupes de la force tunisienne déployée dans la province. Il s'agit de 12 des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe du Maïmaï, du Fouafoua, et un groupe du Maïmaï, Niatoura. Au sud Kivu, le 10 juin 2015, un élément du groupe Maïmaï, Yakutumba, a été capturé et une arme AK-47 est récupérée. Au Katanga, des tensions ethniques et des attaques contre les communautés Luba et Pygmé continuent à être rapportées dans le territoire de Manolou. Les unités des forces congolaises et onusiennes déployées dans cette province sont déterminées à mettre un terme à cet activisme des groupes armés afin d'assurer une protection efficiente des populations civiles. Le climat sécuritaire est calme dans le secteur 2. Enfin, la MONUSCO a mené 1762 patrouilles armées, dont 705 nocturnes et fourni 90 escortes pendant la période sous la main.
Merci, Major Gonsalves, pour ce rapide survol de la situation sécuritaire à travers la RDC. Et nous repartons à Kinshasa pour rencontrer M. José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies, qui procédera à la présentation de son rapport mensuel. Toutefois, notez qu'au cours des mois de mai 2015, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a enregistré un total de 280 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois d'avril 2015 au cours duquel 239 violations ont été rapportées. Les régions les plus touchées sont les provinces du Nord Kivu avec 132 violations, celle du Sud Kivu avec 26 violations et la province orientale avec 69 violations. Durant le mois de mai 2015, les agents étatiques PNC et FRDC, Agence nationale de renseignement et autorité administrative, ont été responsables de 145 violations et ont fait 234 victimes. Plus de détails vous seront donnés avec le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. José Maria Aranaz. La parole est à vous.
Merci beaucoup, Félix. Comme tu viens de dire, le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies a enregistré 280 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC dans les mois de mai, qui représente une hausse par rapport au mois d'avril. Les types de violations plus rapportées sont les atteintes au droit à l'intégrité physique, suivant par le droit à la liberté, à la sécurité de la personne. Les provinces les plus touchées restent les provinces à l'est des pays, à savoir les provinces de Nord Kivu, Oriental et Sud Kivu. L'ensemble des agents de l'État sera responsable de la majorité des violations des droits de l'homme commises au mois de mai, soit 145 violations ayant fait 234 victimes, ce qui correspond à 51% du nombre total de violations des droits de l'homme registrées par notre bureau. À titre d'exemple, les agents d'État ont été responsables de 20 violations et 24 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires au cours du mois sous analyse, et ce qui porte un nombre total depuis le 1er janvier de cette année à 102 violations d'exécutions sommaires extrajudiciaires commises par les agents de l'État seulement. Parmi les agents de l'État, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo seront responsables du nombre le plus élevé de violations des droits de l'homme, 67 violations ayant fait 100 victimes, ce qui représente 24% du nombre total de violations commises pour le mois et une hausse par rapport à avril 2015. Les agents de la police nationale congolaise seront responsables de 23% du nombre total de violations. Les combattants des groupes armés seront responsables de 135 violations ayant fait 593 victimes, qui équivaut à 48% du nombre total de violations des droits de l'homme enregistrés. Au sein des groupes armés, ce sont les combattants des forces alliées démocratiques qui seraient responsables du nombre le plus élevé de violations commises au mois, 38 violations. Au mois de mai, le bureau a enregistré 8 violations des droits de l'homme en relation avec le processus électoral à venir. Les types de violations les plus rapportées sont l'atteinte au droit à la liberté d'expression, d'opinion, 3 cas, et des réunions pacifiques, 2 cas. Et ça équivaut, depuis le début de l'année, on a enregistré 68 cas de violations des droits de l'homme en relation avec le processus électoral à venir. Le 5 mai, le procureur de la République a reconnu les infractions de trahison atteintes à la vie du chef de l'État et atteinte de la sûreté de l'État contre Fred Bauma du mouvement Lucha, arrêté le 15 mars à Kinshasa lors de l'atelier organisé par la plateforme congolaise de société civile Filimbi. Dans la province de Katanga, on a enregistré l'engravement de tensions entre les communautés Pygmy Batwa et les Luba. Du 20 au 25 mai, le bureau a mené une mission d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises sur l'attaque du 30 avril passé sur le site des déplacés internes à Bumila à Niaounsou. Selon les informations collectées pendant ces missions, des présumés éléments de la milice Luba, appelés éléments katangais, auraient commis au moins 109 violations des droits de l'homme, à savoir 53 exécutions arbitrées, 8 viols et 63 cas d'enlèvement, dont les victimes seront principalement les Pygmy Batwa. La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt en date du 29 2015, a reconnu la validité de l'élection du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Au mois de mai, selon les informations mises à disposition du Bureau conjoint des droits de l'homme, au moins 11 militaires de la FRDC ont été condamnés pour des actes constitués de violation des droits de l'homme. Le Bureau a organisé 19 activités de formation ou de sensibilisation, certaines organisées par ou avec les partenaires, en vue de renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques des droits de l'homme et de s'informer de son mandat. Le 27 et 28 mai, à Kinshasa, notre bureau a organisé un atelier de formation pour 33 membres de la société civile travaillant pour l'Association des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de manifestations organisées en prélude de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui serait célébrée universellement par première fois le 13 juin. Répondant à l'appel lancé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 69-170 de date de 18 décembre 2014 à tous les États membres. Dans le cadre de protection, le bureau a traité au cours de mai 10 cas de menaces et autres violations des droits de l'homme à l'encontre de 9 défenseurs des droits de l'homme et une victime de violation des droits de l'homme dans les provinces d'Équateur, Nord Kivu et Sud Kivu. Après la fin de mai et depuis le début de juin, il y avait des autres événements importants à souligner, comme par exemple la publication d'un communiqué de presse par Human Rights Watch appelant à l'exhumation du corps, soulignant les craintes de la fosse qui a été utilisée pour dissimuler les corps des victimes et des abus commis probablement par le gouvernement, notamment au cours de la répression des manifestations de janvier et opération Likofi. Le bureau conjoint et la MONUSCO ont renouvelé son offre d'assiste pour conduire l'enquête aux magistrats en cours de dossier et faire la lumière de toute cette affaire. Le 13 juin, il y a eu une nouvelle attaque par les ADF qui a fait au moins 2 civils tués à Beni. Aujourd'hui était prévu la cérémonie de prestation de serment pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui se sera mouvée à une autre date. Comme ça, je peux laisser notre rapport.
Voilà, c'est tout ici pour donc ce rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. Et je vais vous redonner la parole à Goma pour que vous continuiez cette conférence de presse.
Merci Charles et merci à Monsieur José Maria Aranaz pour cette présentation exhaustive concernant les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le mois de mai. Et comme nous l'annoncions au début de cette conférence de presse, notre invité de ce jour est Monsieur David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations à l'Est et l'État de droit. Monsieur Gressly est arrivé depuis le 18 avril 2015 à la MONUSCO et a immédiatement pris ses fonctions. D'ailleurs, Monsieur Gressly nous revient d'une longue tournée qu'il a menée successivement à Bounia et à Beni. Et j'en suis sûr, Monsieur Gressly a quelques informations à partager avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Gressly.
Bonjour Félix. Et merci bien. Et pour moi, c'est un grand plaisir de rencontrer la média, la presse ici pour la première fois. C'est un grand plaisir, comme j'ai dit. À propos de, peut-être avant de commencer, à propos de mon séjour à Beni Bounia, je voudrais d'abord discuter ce qu'on veut faire en général dans nos opérations à l'est du pays. Nous sommes en train de revoir notre contribution à la stabilisation et aussi comment on peut mettre fin à tous les conflits qui restent dans le pays. Ce n'est pas seulement une action militaire qui est demandée pour ça. Je vais demander au général de faire le point sur ça tout à l'heure. Mais aussi, il y a une contribution civile qui est demandée aussi. Donc, je suis en train de voir comment on peut augmenter notre réponse au niveau local, soit pour mettre fin à ces conflits en soutien du gouvernement, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux donner un appui pour la stabilisation de ces mêmes zones. Et le troisième aspect, c'est bien sûr le suivi des droits de l'homme sur le terrain. Donc, maintenant, nous sommes en train de revoir nos politiques, nos approches, de voir comment on peut réorganiser nos bureaux de terrain pour mieux faire face à ces défis. J'espère d'ici la fin du mois, on va compléter cet exercice et on va redéployer nos personnels sur le terrain pour mieux répondre aux besoins, soit pour mettre fin à ces conflits, la stabilisation ou bien sûr le suivi des droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre que j'ai effectué ces voyages à Bunia et Beni. Je crois que tout le monde est déjà au courant à propos de la situation sécuritaire dans ces deux districts qui reste très préoccupante. Je suis très content au niveau d'Ituri qu'on a une très bonne collaboration avec le FRDC et je crois que le général va faire le point sur ça. Mais comme j'ai dit tout de suite, ça va demander aussi une contribution civile. Je suis très content avec le lancement du programme national de DDR qui a été fait il y a quelques semaines par le ministre de la France, de la Défense, auquel j'ai aussi assisté. Je crois que ça, c'est un aspect très important. Pendant qu'on met de la pression militaire sur ces groupes et surtout le FRPI, c'est très important d'avoir un dispositif qui va encourager la reddition de ces éléments et de les encourager de revenir et entrer dans un programme de DDR. Et après ce programme de DDR et une formation, une réintégration dans une vie civile qui va avoir, selon le programme national, un suivi de 3 ans. Je crois que c'est un bon programme et nous avons déjà mis en place un dispositif de soutenir ce processus. Mon séjour, j'ai effectué en fait, je crois, au moins 4 voyages à Bunia et Beni, de voir comment on peut augmenter notre présence, mais surtout nos activités sur le terrain, est lié en partie à ça. D'abord, de renforcer l'action militaire en mettant un dispositif pour le programme de DDR qui est en place. On a bien travaillé avec le gouvernement et le gouvernement a bien dit que ces éléments peuvent participer dans le programme de DDR, le programme national. Et je crois on va continuer de donner ce soutien. Nous avons commencé un programme de passage de messages et peut-être les médias et la presse peuvent nous aider dans ce sens aussi, de dire on ne veut pas faire une action militaire simplement pour tuer les gens. Franchement, c'est pas comme on veut finir avec ce conflit. On veut avoir une fin de ce conflit qui est le plus paisible possible et qui va favoriser la reddition de ces éléments. On va continuer avec la pression militaire, mais en même temps, on veut encourager ces mêmes éléments de se rendre et de rendre les armes au gouvernement congolais. Et c'est pourquoi je suis allé aussi à Gati et à Veba, j'ai fait 3 voyages maintenant à ces villages pour discuter ce même problème avec la population locale. Aussi pour leur encourager de passer ce même message dans leur communauté que le MONUSCO est prête de recevoir ces hommes et ça a déjà commencé comme c'était dit ici. Et je crois qu'on peut continuer de travailler dans ce sens et avec ça on peut mettre fin à ce conflit. J'ai aussi reçu quelques messages de ces mêmes villages. Je crois d'abord ils ont demandé pourquoi la guerre a recommencé. On a bien expliqué ce qui s'est passé à Veba le 3 juin. Et j'étais témoin de ce processus. Il y avait, je crois, un effort majeur de trouver à travers la négociation une fin de ce conflit. Mais à la fin, je dois dire que le FRPI n'a pas accepté, même symboliquement, aucune reddition, aucun rendement des armes. On a commencé avec une proposition qui a été acceptée par le FRPI de rendre toutes les armes. Après, ils ont décidé de ne pas procéder avec ça. Après, le gouvernement a proposé un rendement de 30 armes qui a été accepté par le FRPI, mais le moment de rendre ces armes, ils ont décidé de ne plus rendre ces armes. À la fin, ils ont même proposé 9 armes qui a été à la fin rejetées par le FRPI, et même le soir du 2 juin, notre colonel, le commandant de notre bataillon à Veba, a essayé une dernière fois de rechercher au moins 9 armes pour essayer de continuer avec les négociations. C'était ce soir-là que le FRPI a décidé de quitter Veba, de reprendre leur position dans l'intérieur du district. Et c'était pourquoi cette action a été initiée par le gouvernement avec notre soutien. Je crois que ça c'est correct. Et ça c'est important à comprendre aussi, et on a passé ce même message à la population locale. Ils ont demandé aussi une plus forte présence par le gouvernement et nous-mêmes pour les protéger, et je crois qu'on comprend pourquoi. Donc j'étais là aussi pour voir dans quelle mesure on peut renforcer notre contribution à cette protection à ces deux villes. Béni, on sait qu'il y avait beaucoup des abus, des meurtres pendant ces dernières semaines. On ne peut pas accepter que ça continue. Donc on travaille maintenant avec la force, et une fois de plus je vais laisser la parole au général pour donner le point. On espère bien qu'on peut avoir la même sorte de réponse sur le terrain, et aussi on va encourager un rendement des armes, une reddition de ces personnes. On est en train de voir comment on peut augmenter notre présence aussi à Béni, je parle du côté civil, pour poursuivre les mêmes objectifs. J'ai aussi profité de ma présence à Béni pour aller à Samboku et aussi à Kamango pour voir la situation actuelle, et ce que j'ai trouvé pendant mes séjours dans ces deux villages et deux histoires différentes. À Samboku, on a vu une population qui a été augmentée par 7000 personnes qui avaient peur de leur sécurité dans leur propre village. Le petit village est rempli des petits enfants qui ne sont plus scolarisés, mais qui cherchent, et des parents qui cherchent une certaine sécurité. Ils ne peuvent plus continuer avec leur vie normale. Et quand on a discuté leur préoccupation, ils ont simplement dit, on ne veut que la paix. Il faut nous donner la paix, et avec la paix, on va recommencer notre vie normale. On va faire l'agriculture pour gagner notre vie, et avec ça on peut payer pour nos enfants d'aller à l'école, on peut payer pour les médicaments. Ils sont tous très responsables, et je crois, pour moi, ça c'était le message clé. Il faut trouver la paix, et on est engagé dans ce sens. Après, je suis allé à Kamongo. Là, on a un village qui est resté dans le pays pour au moins une année, et on a vu la différence.
Monsieur Gressley, s'il vous plaît, à Goma, Monsieur Gressley, essayez de conclure. Oui. En principe, la conférence de presse prend fin à 13h, heure
de
Goma.
Je suis
voilà, c'est ça. Essayons de conclure, comme ça on ouvre la session, la session de questions-réponses. Voilà.
Si vous me donnez le temps, j'aurai déjà fini. Parce que je crois que c'est important de comprendre le sentiment local. À Kamongo, c'est différent. La population est beaucoup plus contente, beaucoup plus orientée vers l'avenir et beaucoup, beaucoup plus orientée de réétablir les institutions locales. Et je crois que ça est indicatif. Qu'est-ce qu'on peut attendre si on peut achever la paix dans les régions touchées, soit par le FRPI, soit par le ADF, et nous restons engagés de faire le maximum pour ces populations. Avec ça, je vais terminer.
Oui, merci. Merci, Monsieur Gresti, pour ces informations qui sont très informatives par ailleurs.